BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, ce sont les Iraniens qui auraient dû écrire The Art of the Deal, pas Trump, mais j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, parce qu'on a décidé de faire quelque chose de nouveau. Eh ben, on en a eu marre de parler de la guerre, de parler des déclarations de Trump, des accords de paix, de retour sur les accords de paix, et on s'est projeté. On s'est dit à quoi va ressembler l'économie, la finance, les marchés et d'ailleurs votre argent dans le monde d'après. Alors après tous les événements importants qui sont passés depuis le début de l'année, donc l'antivirus, l'affaire Patrick Bruel bien sûr, la canicule et accessoirement la guerre en Iran. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est après la guerre, la question macro, quels vont être les moteurs de la croissance dans le monde d'après, pas Patrick Bruel, dans le monde d'après guerre en Iran. Le chiffre de la semaine, le cours du pétrole dans le monde d'après. En deuxième partie de l'émission, la bourse, bien sûr. Quel a été l'événement marquant de la semaine et des mois à venir? Où va la bourse? Quels sont les placements à privilégier dans le monde d'après? Le top ou le flop, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, et ça c'est une nouveauté, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est la championne incontestée du triathlon économie, marché, taux d'intérêt, Valentine Hennouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. On va avoir besoin de vos lumières pour le monde d'après. Vous allez nous éclairer et nous montrer la voie du monde d'après.
Surtout sur les taux.
Que sur les taux?
Je dis surtout sur les taux.
Il a cofondé une des plus belles success stories de la gestion française et s'est rendu célèbre ici même pour ses coups de gueule. Sébastien Lalvé, j'espère que vous êtes de mauvaise humeur. Vous êtes directeur général de Mon Pensier Arbevel. On vous aime de mauvaise humeur. Si vous me dites « je suis en forme oui. », ça me fout la mission en l'air.
J'aime la chaleur.
Ah ben ça va alors. La gestion privée, c'est son domaine de compétence comme le stock picking. Stéphanie Mauger, je n'ai pas dit que vous veniez d'un petit village qui s'appelle Uzès. Vous êtes gérant de portefeuille à la financière d'Uzès. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Ça va bien? Alors lui, c'est l'homme des signaux faibles qui se transforme en tendance forte. C'est pour ça que j'aime bien le recevoir, Jean-François Robin. Vous êtes responsable mondial de la recherche de Natixis CIB. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour le monde d'après, on avait besoin des signaux faibles et des signaux forts. Allez, on s'en...
On manque pas.
Allez, on y va. Le monde d'après. On se projette. Voilà. Normalement, si on était un peu plus près dans le studio habituel, on serait pris la main. Mais bon, là, ça, moi, je suis un peu loin de vous. On se projette. On se dit que Trump est prêt à tout pour arrêter la guerre, soit avec un mauvais deal, soit avec une dernière offensive et un mauvais deal, parce que de toute façon, ça sera un mauvais deal. Projetons-nous, les amis, la guerre est finie. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, gros exercice, vous avez préparé, je suis sûr, pendant des semaines, vous n'avez pas dormi de la nuit, sur l'économie, sur l'inflation et les taux d'intérêt. Allez, on commence par vous, Jean-François. Qu'est-ce qui se passe sur l'économie dans le monde d'après?
Bah déjà, dans le monde d'après, on revient pas dans le monde d'avant, mais on arrête de considérer la guerre. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on...
On revient pas dans le monde d'avant?
Ben non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. La première chose qui va changer, je pense, radicalement, c'est quand même en termes géopolitiques. Hein. Ce truc-là fait que c'est la fin du multilatéralisme, c'est la fin d'essayer d'organiser le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale avec des règles. Là, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du si vous avez les moyens, vous essayez de prendre quelque chose. C'est le début. L'Iran sera beaucoup plus fort après qu'avant, donc il va sans doute avoir une certaine mainmise sur le détroit. Donc si vous êtes les Chinois, vous allez regarder Malacca. Si vous êtes la Turquie, vous allez regarder le Bosphore, etc., etc. Donc il va y avoir une espèce, je pense, de remodélisation du, en tout cas, un remise à plat de toute la géopolitique. Les États-Unis se retirent, c'est la fin de l'OTAN. On a plein de choses qui vont changer en termes géopolitiques. Donc ce sera pas le monde d'avant de toute façon. Je crois quand même que si on regarde la première réaction, si jamais on avait demain un accord, s'il y a un accord, qu'est-ce qui se passe après? Quand même, on a des prix du pétrole qui arrêtent d'avoir cette prime et on revient très très vite dans les 80-70.
On va en parler tout à l'heure.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, on était avant tout ça dans un monde où il y avait trop de pétrole. On était avant tout ça dans un monde où il y avait trop de gaz. Je regardais avant de venir ici, hein, les stocks de gaz européens ou français, ils sont déjà à 40. On était à moins de 20 au début du conflit. Donc, on n'a aucun problème à reconstituer nos stocks de gaz, paradoxalement. C'est bien pour ça que les prix d'électricité ne remontent pas. Donc, on est bien dans un...
Été négatifs. Exactement. Pendant la période
de canicule. Ils le sont de plus en plus grâce aux renouvelables, pas à cause, grâce aux renouvelables. Grâce on a des prix d'électricité de moins en moins chers, on pourra en reparler. Le problème, c'est qu'il faut gérer les équilibres de système. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on aurait un retour très fort des prix prix des matières premières, évidemment, de l'urée, du sulfure, de l'aluminium, tout ce qui avait été...
Des engrais,
tout ce qui avait été mis là-dedans. Je crois que la première chose, déjà, on revient à des prix et à donc une inflation qui serait un peu comme en 2022, elle descendrait aussi vite qu'elle est montée. Et donc, évidemment, on aurait un effet un petit peu sur les taux de ce point de vue-là. Donc, premier choc, je pense qu'il serait de revenir...
Un
contre-choc pétrolier, quelque part. Et puis après, je crois qu'il y a quand même des choses qui, le monde d'après, il n'est pas le monde d'avant. Je le disais, il y a du géopolitique. Alors, donc, il y a de la défense, il y a de l'électrification, il y a plein de choses qui vont arriver.
Alors, il y a un sujet, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui m'intéresse. Sur la partie, vous dites, commerce international, ça fait des années ou des mois qu'on répète, notamment avec l'arrivée de Trump, que c'est la fin du multilatéralisme. Est-ce que ça se voit dans les chiffres? Parce que moi, je regarde les chiffres des échanges et je n'ai pas vu de signe qu'il y avait cette sorte d'explosion du monde et que les échanges étaient en contraction.
Je crois que ce que montre l'Iran, finalement, c'est quand même que même une zone comme le Moyen-Orient est hyper importante pour les supply chains mondiales. Finalement, le Moyen-Orient, là, on parle d'une zone, c'est 2% du PIB mondial. C'est moins que la France dans le PIB mondial. Ouais. Donc, tout d'un coup, on a l'impression, quand on parle du Moyen-Orient et du Détroit d'Ormuz, que tout se passe là-bas, que le monde entier dépend de l'aluminium, que le monde entier dépend des engrais phosphatés qui viennent de là. Bon, les engrais phosphatés, il y en a plein le Maroc. Mais grosso modo, on a l'impression que cette zone, c'est vraiment le nœud gordien de la supply chain mondiale. Ce que ça montre quand même, c'est qu'on reste dans des chaînes de valeur quand même hyper intégrées. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable, là un gros grain de sable, pour que ça s'arrête. Donc quand même, évidemment, pour répondre à votre question, ça montre...
Les échanges aujourd'hui, quand on regarde les échanges entre blocs dont on dit qu'ils sont opposés les uns à l'autre, on voit quand même que ça continue dans des proportions... Je veux dire, quand on regarde les chiffres des exportations chinoises, c'est juste affolant. On ne peut pas dire qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et qu'ils n'arrivent plus à pénétrer les autres marchés.
Je pense qu'encore une fois, c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est pas la fin de la mondialisation. Simplement, c'est qu'on va accélérer cette tendance à aller chercher de la résilience, à aller chercher de la production là où vous vendez. Le commerce mondial maritime, cette année, il risque de monter de 2%. Il ne s'arrête pas, ce n'est pas une récession. On passe par d'autres canaux, mais là, on voit bien ce qui est en train de se passer avec le Kazakhstan. On est en train de chercher des routes alternatives.
On va y arriver, comme on est arrivé à surmonter le fait de ne plus être, pour l'Allemagne, de plus être approvisionné par la Russie.
Et le canal de Suez, etc. On va trouver des alternatives, mais quand même, je pense que ça accélère une réorganisation du monde en termes de grandes régions, encore plus si vous avez la première économie mondiale qui est en train de se dire, moi j'ai mon côté de l'hémisphère qui est à moi, le reste ne m'intéresse plus.
Le monde d'après, selon Valentine et nous, c'est quoi?
Alors moi, pour moi, la première question qu'on peut se poser, c'est le défi sur l'IA aujourd'hui. Parce que si on voit l'économie américaine, ce qui est amusant dans ce conflit, c'est qu'elle résiste extrêmement bien et elle est complètement portée sur l'IA. Si on regarde aujourd'hui la croissance américaine qu'on a eue au premier trimestre, l'investissement dans l'IA, ça contribue pour la moitié. Et ces investissements sont aujourd'hui portés par les grandes entreprises de la tech. C'est 700 milliards pour l'année 2026. Ces investissements, c'est en hausse de 70% par rapport à l'année dernière. Et en prévision, on est sur 1000 milliards l'année prochaine, donc plus 40%. Et si on regarde donc le deuxième pilier, on a ces investissements. Le deuxième pilier, c'est la consommation. Et la consommation, elle tient alors que
aux États-Unis, mais pas ailleurs.
Ouais, elle tient alors que même on a un ralentissement du revenu disponible, il y a un ralentissement sur la croissance des salaires, et normalement on a un ralentissement de la consommation, et là ça tient. Pourquoi? Parce qu'on a un effet richesse, parce qu'on a les marchés actions qui fonctionnent bien grâce à la tech.
C'est ça qui a compensé l'effet baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis?
C'est ça qui a compensé en partie, oui, la baisse.
Et c'est pas les mêmes personnes, par contre?
Non, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont les ménages aujourd'hui les plus riches qui tirent la consommation. Donc l'IA aujourd'hui aux États-Unis, c'est un enjeu stratégique, et on voit qu'il y a aussi des investissements privés, mais il y a aussi un soutien public important. Et si on regarde les déficits aujourd'hui du gouvernement américain, on oscille aussi entre 5 et 6%. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quelle est l'étape suivante? Est-ce que cette vague d'investissement qu'on a aujourd'hui sur les 5 grandes boîtes de la tech, est-ce que ça va être on va pouvoir générer de façon soutenable une vague de croissance pour l'économie américaine? Et là, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait un élargissement de cette dynamique de CAPEX. Que ces investissements, ça ne soit plus seulement l'histoire de chaque entreprise, mais ça doit être l'histoire de l'ensemble des entreprises américaines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour avoir ça, c'est important, il faut avoir des taux plus bas. Et l'autre question qu'on va devoir aussi se poser rapidement avec l'IA, c'est une fois que cette richesse sera créée de façon soutenable, si on arrive dans cette configuration, comment est-ce qu'on se la partage? Comment est-ce que les gains de productivité générés se partagent entre le capital et le travail? Parce que c'est de la croissance sans emploi.
Alors vous êtes dans le monde d'après encore.
C'était la thématique.
Mais vous avez raison.
C'était la thématique de cette émission. Pour moi, aujourd'hui, on a une économie aux US qui est tirée par l'IA. Et aujourd'hui, si on regarde cette croissance, c'est pas soutenable. Pour que cette loi soit soutenable, il faut vraiment un élargissement de ces capex. Et pour moi, ce qui est important, c'est la condition à ça, c'est des taux plus bas, des taux courts.
Alors justement, pour vous, l'inflation dans le monde d'après, ça ressemble à quoi ? Jean-François nous dit le pétrole devrait baisser, il y aura moins de tensions sur les matières premières. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu d'inflation, qu'on a juste eu une hausse momentanée des prix et qu'il n'y aura pas d'inflation ?
L'inflation, si on regarde, on en parlera sur les prix du pétrole, pour moi, ça ne va pas être un sujet. Et surtout, l'inflation qui va être par le marché du travail, ce n'est pas un sujet.
Donc, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation dans le monde d'après ? C'est ça ma question.
Pour moi, le monde d'après, il n'y aura pas d'inflation, mais il y aura surtout aussi des banques centrales qui vont devoir baisser les taux courts.
D'accord, on va revenir. Sébastien ?
Sur l'énergie, il faut quand même avoir en tête que, notamment du fait de l'IA, on va, chaque année, entre maintenant et 2030, avoir besoin de l'équivalent de la consommation du Japon en plus.
Donc, c'est plus d'électricité.
Ah oui, c'est plus d'électricité.
Oui, mais on sait faire aujourd'hui l'électricité.
Tu sais pas faire de l'électricité comme ça quand tu as des data centers qui ont besoin de 1 gigawatt par an. C'est l'équivalent de centrales nucléaires.
On a des prix d'électricité qui sont négatifs.
C'est local. Le problème, c'est que tu dois raisonner au niveau local, pas au niveau global, et tu vas avoir des besoins qui vont être extrêmement concentrés assez vite. Donc, un des sujets du monde d'après, ça va être la mise en musique de tout ça, parce qu'on a eu 3 années où on parlait d'IA, et c'est fondamental, mais il faut bien voir aussi que depuis 18 mois, il n'y a pas eu d'accélération des résultats des entreprises. Les marchés américains, le S&P a beaucoup monté, les estimations ont augmenté en masse à peu près 7% sur la période, mais c'est lié aux 55-60% des boîtes liées à l'IA ou au CAPEX d'IA. Or, ces activités-là, en fait, le S&P, les résultats ont baissé.
D'accord.
Donc, en fait, t'as une...
D'accord, mais quand on a un Nvidia qui tire, à la limite, on s'en fout qu'il y ait 100 boîtes qui...
D'accord, ok, très bien.
Parce que c'est des chiffres qui sont tellement spectaculaires que ça compense...
Sauf qu'en bourse, si on parle de la partie boursière, ce qui est intéressant...
On en parlera tout à l'heure, peut-être.
Dans l'économie, c'est toujours une période, on appelle en mauvais français du FOMO, donc on a envie d'y être. Et à tous les prix. Et maintenant, on va rentrer dans la partie où il faudra comprendre et rentabiliser. Et pourquoi ça va arriver ? Parce que Anthropic, OpenAI, SpaceX vont rentrer en bourse. Donc, ça va être l'arrêt de la période du rêve. Il va falloir concrétiser. Et quand on s'intéresse vraiment à l'IA et qu'on commence à gratter un peu les choses, qu'est-ce qu'elles vous disent les entreprises ? Déjà, j'ai un peu peur de me lancer parce qu'en fait, je ne sais pas combien ça va me coûter. Parce que, en fait, utiliser l'IA, déjà, tu vas être pieds et mains liés avec un provider.
Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde?
Non, pas du tout, parce que tu sais pas exactement combien, quand tu vas faire tes décisions, combien ça va te coûter, c'est-à-dire combien va être le token. En réalité, c'est que pour l'instant, c'est subventionné par des boîtes qui, pour l'instant, n'est pas tout de suite de rentabilité. Le jour où elles sont en bourse, le prix des tokens va énormément augmenter, arrêtera d'être sponsorisé. Donc, les entreprises, en fait, par rapport à l'IA, il y a un vrai sujet, c'est que pour l'instant, il a pas véritablement été implanté. Et mettre copilote dans les boîtes, c'est pas faire de l'IA.
Déjà en faire un peu quand même.
Ouais, mais de la productivité.
Dites pas ça, je viens de mettre copilote dans.
Ouais, oui, mais ce que je veux dire,
c'est que j'ai dit qu'on était entré dans l'ère de l'IA.
Le véritable impact, tu l'auras quand les infrastructures des entreprises en termes de data seront faites. C'est pas encore fait. Donc en fait, on parle de plein de trucs. Mais ça n'arrivera que dans 2 ou 3 ans.
Stéphanie ?
Ok, cette diffusion.
Ouais. Stéphanie, juste pour revenir, économie, inflation, votre vision, c'est quoi ? Vous dites, le monde d'après, il sera top ?
Si la guerre s'arrête, on peut espérer...
On
part sur ce principe que les taux rebaissent, effectivement. Ouais. On en est loin, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de... 19 mai, on était à 3,19 sur le Bund allemand. Aujourd'hui, on est à 2,94, mais... quand on regarde les boîtes qui se financent à court terme, on est encore bien plus cher qu'il y a 9 mois.
Et on nous dit que la BCE va peut-être monter ses taux.
C'est 50 points de base de plus. LNA à 12 mois, c'est passe de 2,82 à 3,50. Donc la réalité pour les entreprises aujourd'hui, c'est que même si ça rebaisse, on est encore quand même bien plus cher qu'il y a un an. Donc il va falloir vraiment un retour de la confiance, une certitude qu'on va normaliser la situation. Et ça va sans doute contribuer à un regain de confiance de tous ces patrons qui, en fait, vont bien, mais sont juste prudents et attentistes. Et donc,
C'est ce que vous ressentez, vous, quand vous leur parlez ?
Oui, on s'est dit, ça va être court, puis ça dure. Donc là, tout d'un coup, en fait, que ce soit au niveau des patrons, au niveau de la consommation, on l'entend, les petits commerces, les clients qui ont des boutiques, disent, l'argent est là, mais en fait, les gens ont arrêté de dépenser.
Jean-François, juste pour revenir une seconde sur un de mes sujets favoris, mais vous êtes économiste, Il y a des économistes à la BCE. On a tous l'impression que monter les taux, ça serait une erreur fondamentale. Pourquoi la Banque centrale pourrait monter ses taux? J'ai du mal à comprendre, en fait.
Eh ben moi aussi. Non, mais je pense qu'on va avoir, droit à une espèce de dovish hike ou de.
C'est quoi, dovish hike?
C'est une banque centrale qui va monter les taux pour faire croire qu'elle est méchante, en se disant à 2,25, je suis pas très loin de mon taux neutre qui est autant entre voilà entre 2 et 2,5 pour la banque.
C'est symbolique quoi.
C'est un peu symbolique.
C'est dire je lutte contre l'inflation.
Voilà. Et puis surtout j'essaie de casser les anticipations d'inflation. Il y a une espèce de gros traumatisme de la banque centrale qui est lié à 2022 où on disait mais en fait c'est un choc d'énergie transitoire et à la fin ça s'est transféré à l'alimentation, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui aussi. On voit bien les prix des engrais, vous le disiez, c'est 30% des engrais mondiaux qui sort de la région. Et donc, évidemment, ça se transfère au prix. Et donc, la BCE veut absolument casser cette histoire-là. Moi, je suis absolument persuadé que ça ne changera rien du tout.
C'est pas ça qui va ouvrir le détroit d'Hormuz.
Exactement. Donc, à la fin, ça ne sert à rien. C'est un geste symbolique. Ce qui me semble très intéressant, c'est quand même cette espèce de schizophrénie entre les marchés qui achètent que les États-Unis, qui sont à 3,8% d'inflation, seraient à deux doigts de baisser les taux, et que la BCE, qui est à 2,8% d'inflation,
oui, parce que c'est politique aux
États-Unis. Elle faut qu'elle monte les taux 3
c'est ça.
Quoi. Donc, on est quand même espèce de dichotomie. Si c'est vraiment le cas, il faut mettre l'euro-dollar à 25. Quoi, hein. Donc attention, je trouve qu'il y a des problèmes de cohérence.
La question macro, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est les moteurs de l'économie après la guerre. Pour vous, Valentine, c'est clair, hein, c'est vraiment le rapport à l'IA. Quoi. Ça va être ça, le moteur principal.
Aux États-Unis, c'est le rapport à l'IA. Et en Europe, on a quand même ce changement de cap qu'on attend sur le budgétaire allemand. Et en Europe, on augmente aussi les dépenses sur la défense et on a une transition énergétique. Sur l'Europe, on a ces moteurs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder globalement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, tous les moteurs de croissance réclament des investissements monstrueux.
Massifs.
Et pour moi, ça veut dire...
C'est ce que disait un peu Sébastien, pour la partie IA, quoi.
Bah, pour la partie IA, oui.
Et pour la partie énergie de l'IA.
Mais précisément, je pense que c'est ce qui, à mon avis, doit questionner l'idée qu'on a tous que les taux d'intérêt vont baisser. C'est pour ça que moi, je dis que ce n'est pas un retour à la normale.
Ah bon?
Ce qu'on va avoir, c'est quand même une accélération des dépenses, déjà pour reconstituer les stocks militaires, accélérer la dépense de défense.
Ah, mais si la croissance ralentit, vous êtes économiste.
Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, typiquement les États-Unis, pour se dire les choses, il n'y a aucune raison que les taux d'intérêt américains rebaissent fortement. Même si la Fed devait baisser les taux courts, elle veut dans le même temps réduire la taille de son bilan, donc c'est plutôt une haussier taux long. Mais si vous prenez juste les États-Unis, aujourd'hui, les taux d'intérêt américains, ils vont plutôt monter. Vous avez un déficit américain qui est plutôt de l'ordre de 7%. Vous avez un coût d'intérêt de la dette américaine qui est aujourd'hui de 3,3% du PIB. On parle de 1000 milliards. Hein. Les intérêts de la dette américaine, c'est supérieur au budget militaire américain. Le CBO, cette semaine, nous dit, dans 10 ans, messieurs, dames,
le comité du
congrès budgétaire, qui est pourtant dominé par les Républicains, dit, en 2036, dans 10 ans, c'est 4,6% du PIB, ça double à plus de 2,3 trillions.
Donc vous dites, même si l'inflation rebaisse, les taux d'intérêt...
Ah oui, si vous devez investir dans la défense, si vous devez investir dans l'électrification, parce que vous avez bien vu que c'était un énorme problème de dépendre d'une petite zone pour votre mix énergétique qui n'a aucun sens, qu'en plus de ça, vous avez des dépenses démographiques, qu'il faut tenir la distance sur la course à l'IA. Vous avez aucune raison que la course à l'épargne mondiale elle fasse autre chose que maintenir des taux élevés.
C'est pour ça qu'on
donc,
va avoir pour
défense.
Moi des pressions sur les taux longs. Hein.
Défense, IA, pardon. Allez-y.
Mais ce qui ne veut pas dire que les banques centrales vont devoir baisser leurs taux. Parce que comment est-ce qu'on finance tous ces montants d'investissement? Si on regarde en Europe, il y a l'Allemagne qui a une marge de manœuvre budgétaire, mais ni la France ni l'Italie ont des marges budgétaires pour financer ces investissements. Et si on veut que ce soit aussi des investissements qui viennent du privé, les niveaux de taux longs aujourd'hui sont beaucoup trop élevés. Les niveaux de taux réels aujourd'hui en France et en Italie, pour moi, sont sur des niveaux restrictifs aujourd'hui.
Sébastien, défense, IA, vous dites l'énergie?
L'énergie.
Les moteurs de la croissance.
De toute façon, c'est la souveraineté en général. Et la souveraineté aujourd'hui, c'est la défense, l'énergie. L'IA, en sachant que SpaceX, une fois encore, qui a publié les documents pour son IPO, pour son introduction en bourse, 20% du chiffre d'affaires de SpaceX en 2025, c'était avec l'État américain. Donc la souveraineté, il faut pas faire qu'en parler. Il faut aussi la faire concrètement et que les États stratèges, alors ça fait peur hein, quand on parle d'État stratège, surtout en France, il faut que l'État s'implique et sa souveraineté, c'est-à-dire donne des contrats, donne de l'argent à des fournisseurs européens, idéalement français et européens. Et le problème, c'est que face à ça, en Europe, il n'y a pas cette conception, n'existe pas. On l'a vu tout le temps, notamment avec nos amis allemands. Et c'est le seul moyen pour avoir des entreprises...
Vous demandez plus d'État, vous ?
Non, je demande de l'argent qui arrête d'être...
Mais vous demandez plus d'argent de l'État, mais l'argent de l'État, c'est l'autre.
D'une certaine manière, je suis profondément libéral, mais il n'y a jamais eu... Obama, mais il faut faire des choix. Le problème de même avec de l'IA, ce que vous voulez, à la fin, c'est un nouveau paradigme, ce qui arrive, mais il faut être capable de décider, il faut des gens courageux et faire des choix.
Je suis d'accord, mais ça veut dire réduire les dépenses publiques, couper le budget de dépenses sociales, travailler plus longtemps,
baisser
les retraites...
C'est pas parce qu'il y a une guerre en Iran que les problèmes structurels n'existent pas. Et dans le monde de demain, il y aura les mêmes problèmes structurels, et sauf que ça fait 30 ans qu'on met tout sous le tapis, là le tapis est plein, donc il va falloir adresser sujets.
Non mais ça fait 30 ans qu'on dit que le tapis est plein, c'est ça. Par exemple, en France, moi-même, je l'ai dit, je sais pas, 20 fois sur les 15 dernières années, que c'était ça y est, on est à l'heure de vérité, on va pas pouvoir passer,
La différence, c'est que là, on emprunte combien, 300 milliards par an à peu près, ouais. 300 milliards par an, que les maths. À la fin, c'est que des maths. Hein. Les
retraites, je comprends, mais maths. Pour moi, mais au début, c'était que des maths, et à la fin, c'est toujours des maths. Mais qui dit que c'est à la fin ? C'est ça que je... Stéphanie ?
Non, mais on voit quand même qu'il y a une vraie prise de conscience, notamment...
Vous trouvez, vous ?
Oui, je ne suis pas sûre qu'on sache forcément tout non plus, mais sur, par exemple, l'Allemagne qui vient de remplacer, ils sortent Palantir pour mettre une filiale de Coloris, etc.
Mais il n'y a pas une prise de conscience de notre situation financière dramatique. Regardez les programmes pour 2027 qu'on commence à avoir, c'est pire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que...
Non, pardon, Stéphanie, vous aviez fini ?
Oui, non, mais je pense qu'effectivement, vous avez raison sur cette prise de conscience financière. Il y a peut-être un moment où il va juste falloir dire stop, on arrête.
Mais qui va dire stop ? C'est ça que je ne comprends pas.
Peut-être l'Europe.
C'est ça que j'attends. Mais moi, j'attends ça depuis des années.
C'est la réalité, donc...
Jean-François.
Non, ce que je trouve aussi intéressant pour rebondir sur les deux précédents propos, c'est qu'il y a une grosse différence justement dans les capex qu'on va avoir besoin de faire.
Alors, les capex, expliquez pour les gens.
Sur les dépenses d'investissement en capital qu'il va falloir faire pour toutes ces grandes tendances qu'on a évoquées, l'électrification, la défense, l'IA. Il y a quand même une grande différence, c'est que la défense, c'est pour l'État. On ne va pas demander aux boîtes d'investir dans la défense. C'est évidemment la part du souverain par définition.
Donc c'est encore du budget.
Là, nous, on est à 2,1% de nos dépenses publiques françaises qui sont en défense. Il faut qu'on passe à 3,5%. On s'est engagé à le faire, mais ce n'est même pas pour faire plaisir à Trump. C'est qu'on voit bien que le monde est devenu très, très flippant. Donc il faut trouver 2 points de PIB rapidement dans la défense. En revanche, moi, je trouve que les dépenses dans l'IA, les dépenses dans l'électrification, pour le coup, on peut tout à fait penser que c'est les entreprises qui pourraient prendre leur part de ça, parce que finalement, il n'y a pas besoin que ce soit l'État qui le fasse. Les entreprises ont quand même encore des taux de marge et des capacités financières. De plus en plus, j'ai envie de dire, parce que
surtout les leaders de la tech qui seront les premiers consommateurs.
Et surtout,
ce que dit Sébastien, c'est qu'elles vont répercuter et vont nous faire payer plus cher leurs services.
Oui, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les capacités de ce financement, typiquement les 7 magnifiques, là, si vous en prenez 5, ils ont émis 160 milliards de dettes depuis jusqu'à fin mai. Là. Donc on voit bien que c'est eux qui sont en train de s'endetter pour investir. Et je trouve que ce modèle-là, il me semble pas complètement... il n'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y a des entreprises, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est déjà le cas en Europe pour ça.
Qui prennent la place de l'État,
financent moins cher que l'État. Donc l'État lui laisse vraiment les dépenses les plus souveraines.
C'était le cas déjà. Quand Amazon s'est endetté, moins cher que
je pense que ça va continuer et augmenter.
Hein. On voit bien quand même aussi qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques sociétés qu'on voit régulièrement dans le portefeuille qui ont fait elles-mêmes leur propre infrastructure, qui sont du coup dépendantes de leur propre LLM. Je pense à Equasens qui s'occupe de toutes nos données de santé. Je pense à SiteTrade qui a fait son propre data center en disant effectivement, si j'avais mis ça sur AWS, je serais tributaire dû à la hausse du prix à la fois de l'abonnement et puis des tokens. Là, je gère mes propres tokens. Donc en fait, on peut reprendre la main aussi sur nos infrastructures et sur la manière de le faire, de manière peut-être plus économe.
Juste en a une minute, Sébastien, vous pouvez expliquer l'histoire des tokens parce que je suis pas sûr que ce soit très compréhensible pour tout le monde.
Aujourd'hui, quand vous achetez en tant que particulier ou même en tant qu'entreprise un abonnement à Claude, vous êtes limité dans l'usage que vous faites parce qu'un token, en fait, c'est l'unité de consommation,
d'accord,
si vous voulez. Et en fait, ce qui est arrivé récemment, d'accord, c'est que déjà ils ont réduit de façon unilatérale.
Comme après, quand on avait les forfaits limités.
Exactement. En fait, ils ont déjà réduit. Aujourd'hui, déjà, avec l'usage augmente, hein, parce que quand vous implémentez ça dans votre entreprise.
D'accord, mais qu'est-ce que ça change ? On paiera plus cher.
Oui,
mais c'est après, vous pourrez. Après, jusqu'à présent, c'est des abonnements.
Oui.
Et en fait, à un moment, au-delà de 100 euros, vous allez payer à l'usage. Et quand vous payez à l'usage, c'est pas du tout la même histoire. En fait, c'est infiniment plus cher. Pour la petite histoire, Microsoft, qui avait introduit Anthropic et Claude dans sa boîte, a déclaré la semaine dernière, ça y est, on enlève Claude parce que c'est trop cher.
D'accord.
Et moi je pense que j'en ai parlé récemment avec un patron d'entreprise qui me disait qui développe dans les PME son ses services en disant pour l'instant, il y a un peu d'attentisme de la part des entreprises pour ces installations parce qu'elles ont peur, elles maîtrisent pas le coût.
On se retrouve, c'était passionnant. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler de la bourse, on va parler des événements marquants sur les marchés financiers, du placement pour le monde d'après, top ou flop, top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. À tout de suite.
BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Voilà, nous on a décidé qu'on était dans le monde d'après la guerre, voilà. On a décidé, on a eu envie de nous projeter, on s'est projeté en première partie et j'avoue que j'étais très surpris, ils avaient bossé et ils ont dit des trucs intelligents alors que bon, quand j'avais vu les invités, hein, Jean-François Robin, Stéphanie Moget, Sébastien Lalvé et Valentine Hénoux, je me suis dit ça va être difficile aujourd'hui, mais finalement ils m'ont agréablement surpris. Non, vous réagissez pas, vous gueulez pas. Non mais je vous laisse. Insulter comme ça.
C'est le pouvoir de la télé quand même.
Non mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire, je pourrais dire n'importe quoi, personne ne me dit pas non mais attendez, je vais partir
de la part d'un admirateur d'Angela Merkel, je m'attends à tout.
Ouais. C'est vrai et de Donald Trump.
Avant
la guerre. Allez, on passe tout de suite au marché depuis le début de l'année. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire des marchés depuis le début de l'année ? En Europe, on nous avait dit, ça y est, c'est reparti l'Europe. Bah, on a perdu toute notre avance. Hein. C'est un peu dommage. Les États-Unis font la course... Non, ils ne font pas la course en tête, mais ils sont bien placés. Le S&P au-dessus de 10%. Vous le disiez tout à l'heure, l'économie, Valentine, résiste, mais les marchés aussi résistent. Et comme les marchés résistent, l'économie résiste. Exactement. Avec l'effet Richard. C'est bien, j'ai compris ou pas ?
Parfait, bravo.
Nikkei, bon, on n'en parle même pas, c'est 30% de hausse. Le MSCI World, 10%. Où est-ce qu'on va sur les marchés, Sébastien Lalvé ?
Alors, une fois encore...
Dans le monde d'après, voilà. La guerre est terminée, Donald Trump a fait un mauvais deal. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, une fois encore, 40% du S&P, c'est les fameuses boîtes d'IA dont on parle. Donc, en fait, c'est un marché qui est extraordinairement étroit.
OK.
Et quand on regarde la hausse récente, les flux venaient des CTA et des hedge funds, absolument pas des gérants traditionnels.
Les CTA pour les
en fait, c'est des fonds momentum très professionnels. En fait, c'est pas des gérants.
C'est des fonds algorithmiques. C'est pas des gens.
Exactement.
C'est pas votre métier.
Non, donc c'est très momentum et très algorithmique. Donc la hausse du marché, est celle-là. Et une réflexion encore, je suis un peu obsédé par SpaceX, mais ce qui est intéressant...
Non, dites pas ça.
C'est qu'en fait, ça va être... On n'a pas les chiffres, mais peut-être 2000 milliards de capitalisation boursière.
Au moins 1700.
Je me prononce pas sur la valo, mais ce que je vois, c'est que le mode opératoire d'introduction fait que ça va se retrouver à 3 ou 4% du S&P instantanément à son introduction en bourse, ce qui veut dire que tous les fonds vont être obligés d'en acheter. Et en plus, Musk est quand même un énorme malin, a décidé, pour le bonheur des particuliers, d'allouer 30% aux particuliers qui vont acheter ça parce que la valorisation, ils s'en moquent. Donc en réalité, ça va être une introduction qui probablement fonctionnera pour des raisons extraordinairement
malsaine.
Dangereuse et malsaine. Donc, en fait.
Et ça sera la même chose pour Anthropic et OpenAI, c'est 1000 milliards.
Ça se retrouve à 1000 milliards à peu près.
Donc vous avez 4, aussi dans les
indices. Vous avez 4000 milliards, donc vous avez peut-être l'équivalent de 10% du S&P qui va arriver dans les 2 ou 3 mois qui viennent et qui devront se faire une place. Dans
donc
les
vous
indices.
Nous dites quoi ? Vous nous dites ça.
Alors ça n'a pas baissé tout de suite.
Okay.
Donc ça n'a pas baissé tout de suite, mais pour des raisons
qui sont pas
techniques.
Bonnes. Stéphanie.
Et puis, il a quand même fait changer les règles quand même pour arriver directement au Nasdaq. Hein. Donc, c'est quand même un peu impressionnant la puissance à la fois politique et économique d'un Elon Musk hein, sur une introduction comme ça.
Après... Et je rappelle qu'on va probablement, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, on va probablement avoir maintenant des déclarations des comptes semestriels au lieu d'avoir des comptes trimestriels. Ouais. Ce qui va quand même augmenter encore un peu le flou et l'absence de transparence. Hein.
Ouais.
Donc ça va permettre de s'exciter pendant des mois avant d'avoir les comptes des sociétés. Ouais. Stéphanie, pardon.
Donc non, dans le monde d'après, effectivement, je pense qu'on va d'abord avoir un soulagement. On a déjà eu un peu l'effet, alors ça c'est le monde d'après, à très court terme,
On a vu 2-3 fois les espoirs de cesser le feu, ouais, avec un impact directement sur le prix du pétrole, surtout tout ce qui est toutes les chaînes autour du prix des engrais, etc., qui vont donner de l'air. Hein. On peut prendre des exemples très concrets. Un Roberté, par exemple, qui est un leader mondial des fragrances. Bon, bah eux, ils ont eu un impact tout de suite sur le coût du plastique pour leur flaconnage, sur le coût du fret, sur le coût des négociations avec leurs fournisseurs sur les matières premières. Donc tout ça, ça s'est répercuté très vite. Hein. Et donc ils avaient.
On vous dit dans le monde d'après immédiat.
On va retrouver. Certainement un
peu. Parce qu'on est déjà des niveaux records, c'est-à-dire on continuera à avoir des records. On va continuer. Et vous pensez que l'Europe va rattraper un peu de son retard ?
L'Europe va certainement du coup retrouver un peu d'air, justement lié à cette accalmie sur cette inflation venant des matières premières et de l'énergie. Et peut-être du coup, toujours cet élan lié à ces grandes thématiques que sont la défense, l'industrialisation, l'électrification. On y revient toujours, hein. Ça reste cette tendance de fond qui va sans doute amener l'Europe à continuer d'y arriver, mais en face d'un États-Unis, enfin d'Amérique, qui eux ne sont absolument pas impactés par cette guerre qu'ils ont quand même déclenchée, hein, en Iran. Donc c'est
énorme. Aujourd'hui, Jean-François, bon, la bourse, c'est pas forcément votre sujet immédiat, mais c'est devenu, comme disait Valentine tout à l'heure, un élément de la macroéconomie parce que c'est un élément du wealth effect et de l'effet richesse et que ça alimente la consommation des ménages. Est-ce que vous regardez beaucoup, vous?
Alors oui, juste un chiffre, hein, aux États-Unis, vous avez 90% des actions américaines qui sont détenues par les 10% les plus riches, qui eux-mêmes font plus de 50% de la consommation américaine. Les 80% les moins riches américains, ils ne font plus que 30% de la consommation. Donc aujourd'hui, l'économie américaine, elle tient sur la tech, qui tient les marchés actions, qui fait la consommation. Si je caricature complètement. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce qui est là aussi, c'est que quand on parle du monde d'après, les marchés actions qui sont à des niveaux records partout, joue déjà le monde d'après. Sinon, il n'y aurait aucun sens à ça. Vous êtes dans un choc pétrolier qui est comparable à celui de 1973-74 qui avait changé la face du monde pendant des décennies. Aujourd'hui, on oublie complètement ça. C'est l'IA plus fort que la guerre. D'ailleurs, ce qui est très
important. Après, vous nous dites vous-même. Attendez, vous me surprenez là. Vous comparez au choc de 73-74. Alors que vous nous dites vous-même, bon, là, on est dans un choc temporaire. Là, on était dans un choc fondamental. Il y avait quand même des États-Unis qui étaient dépendants du Golfe. On était tous très dépendants du pétrole. Rassurez-moi, l'économie, elle a quand même changé. On est moins dépendants, non ?
Oui, complètement. On se donne des chiffres. Hein. En 73-74, on perd 4,5 millions de barils jour de production de pétrolière. Aujourd'hui, c'est 12 millions de barils jour. Donc, c'est 3 fois plus. Ouais. Simplement, c'est que le monde, il consomme 3 fois moins d'énergie d'hydrocarbures pour faire une unité de PIB.
D'accord.
Donc, à la fin, ce choc-là, il n'est pas 3 fois pire. Okay. Il est similaire en termes de pertes énergétiques. Bon, moi, ce que je trouve très intéressant quand même, c'est qu'on disait que les grands perdants, encore une fois, les marchés actions jouent le futur. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, vous avez les grands perdants du choc de l'Iran, c'est l'Asie. 82% de ce qui sort du détroit d'Ormuz, ça va en Asie. J'étais avec l'ambassadeur du Japon. C'est 90% de leur pétrole qui vient du détroit. Alors évidemment, vous avez envie de vous dire, le Japon, hyper touché. Vous avez montré
et la Corée.
Et la Corée, c'est pareil, on est à plus de 70%. Aujourd'hui, l'énorme gagnant.
C'est incroyable ça. Non, mais c'est important que vous le disiez, parce que les gens le savent pas.
L'énorme gagnant de cette séquence, on parle des États-Unis qui font plus 10, mais je rappelle que les États-Unis, voilà, c'est eux le plus touchés par ce qui se passe, hein. C'est le pays du G7 où les prix du pétrole à la pompe augmentent le plus. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est plus 10%, donc on joue le côté IA. Mais en fait, le grand gagnant de la course à l'IA, c'est qui? C'est Taïwan, plus 50%, c'est la Corée, plus 70% Taïwan, plus 50% pour la Corée.
Sur trois boîtes.
Sur trois boîtes, oui.
Oui, non, encore une fois, la concentration, je partage complètement votre avis, c'est attention, c'est tellement concentré sur quelques boîtes. On parlait d'Anthropic tout à l'heure, moi, ce qui me fait sourire, il y a 3 mois, il y a 6 mois, on vous disait qu'Anthropic était complètement à la rue, que c'était pas du tout le bon modèle, etc. Tout d'un coup, c'est devenu The New Kid on the Block, et on va avoir une intro à 1000 milliards de dollars.
Le dernier round était à 350 milliards, on va avoir une intro à 1000 milliards.
Avec un marché extrêmement technique et professionnel, effectivement, ce que disait tout à l'heure Sébastien, hier, par exemple, sur Micron, qui est une boîte phare dans la mémoire, en fait, il y a eu un effet de gamma squeeze sur ces fameuses options. En fait, les gens, en gros, plutôt que d'acheter les titres, c'est moins cher d'acheter les options, les calls. Et donc, hier, le prix du call a augmenté de 13 400% en séance. Hein. Et donc, ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les titres. Donc ça, c'est une boucle qui s'auto-entretient.
C'est intéressant.
C'est que vendredi, Trump avait dit qu'il fallait l'acheter avant la fermeture.
Exactement.
De France. C'est bizarre quand même.
Voilà.
Et justement, Sébastien, j'entends ce que vous dites, hein, sur l'algorithmique et tout ça. On comprend très bien. Mais ce que dit Stéphanie, c'est un fond un peu différent. C'est qu'il y a une nouvelle génération d'investisseurs, plus jeunes que moi et plus jeunes que vous aussi, de fait, qui ont ce côté un peu gaming de la bourse. Est-ce que ça aussi, ça joue pas le momentum? Parce que vous reprochez beaucoup au modèle algorithmique d'avoir faussé la donne. Mais est-ce que finalement, ces groupes qui chassent en meute un peu, qu'on a vu un moment sur les mêmes stocks aux États-Unis, est-ce que ça aussi, ça change pas un peu la donne sur la bourse et ça fait qu'on est à ces niveaux-là aujourd'hui?
Bah, on s'est fait twitteriser, c'est-à-dire que les concepts les plus compliqués aujourd'hui, ils doivent être expliqués en 140 caractères. On est dans la culture de la simplification et c'est abominable parce que l'IA et les ChatGPT va aussi faire ça. C'est qu'on va nous filer tout préparé, toute réflexion. Et on peut citer Hannah Arendt, on peut citer tous ces personnes-là. Quand on arrête de réfléchir, le pire peut arriver. Et malheureusement, moi j'ai un gamin de 14 ans, quand je lui pose une question, il regarde sur ChatGPT qui me sort comme ça. Donc j'ai dû lui expliquer, attends, c'est plus compliqué, c'est prémâché ton truc. T'as pas réfléchi, t'as utilisé ChatGPT. Et le parallèle avec le retail, avec le développement des Coinbase et des Trade Republic et tous ces sujets-là, c'est qu'effectivement la bonne nouvelle, c'est que ça démocratise l'accès à la bourse.
Donc ça c'est bien.
D'abord, avec beaucoup via les cryptos aussi. Okay. Donc, et d'ailleurs, les gens font la même chose. C'est pour ça qu'eux, ils n'achètent pas de fonds, ils achètent des ETF. Ouais. Ils consomment, mais ils consomment avec une vision extrêmement court terme. Et la réalité, c'est que ces gens-là n'ont jamais connu de crack, se moquent des fondamentaux et qu'à un moment, ça vient te mordre, en fait.
Très bien, bah c'est sympa. On va passer un bon week-end comme ça. On va se tirer une balle avant dimanche. Stéphanie, on va passer à le placement du monde d'après la guerre. C'est quoi pour vous?
C'est l'électrification. Je crois qu'on a parlé suffisamment depuis le début de la...
Et là, il y a de quoi faire.
On a à la fois tout ce qui permet de mettre en place ces infrastructures. Donc, on en a des super beaux chez nous, des Schneider électriques, des locaux.
Ça vaut cher tout ça déjà, non?
Oui, ça vaut cher. Mais en fait, quand on regarde derrière toutes les technos et tous les besoins, justement, pour faire baisser cette consommation électrique, voilà. Et après, ça va être les Siemens, ça va être au niveau des semi-conducteurs, des Infineon, des ST Micro. On a un choix très large, en fait, pour jouer cette thématique-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un axe où, a priori, on va bénéficier de ces milliards qui sont injectés.
Sébastien ?
Souveraineté. Ouais. Donc, souveraineté, c'est l'énergie. C'est le climat et la santé. C'est-à-dire que les deux secteurs, les deux thématiques qui me semblent centrales aujourd'hui, c'est le climat. Au-delà de l'aspect climatique.
On investit dans quoi pour investir dans le climat ?
Et ben, ce que disait exactement Stéphanie. Les producteurs d'énergie verte, la façon d'avoir une énergie clean et optimisée, et la santé. Mon idole, c'est Demis Hassabis. Il vient de sortir de sa nouvelle société Isomorphic Lab. Va avoir, en fin d'année, le premier candidat médicament injecté chez l'humain. C'est-à-dire que généralement, un cycle de production d'un médicament entre la création, enfin l'idée et la vente, c'est entre 10 et 15 ans. Là, en moins de 3 ans, il est passé de du BC1. Hein,
un médicament pour quoi?
Peu importe, mais entre
Alzheimer, je pense.
Hein? C'est de Alzheimer, exactement, très bon. Donc ça va aller. Et l'aspect positif, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Et la santé est un secteur globalement intéressant parce que c'est un marché qui chaque année est en croissance de 6 à 7%, quoi qu'il arrive, récession ou pas récession. Et ça sera un bénéficiaire net
sauf,
de l'IA.
Sauf, je vais faire un peu le contrariant, mais sauf qu'on a des budgets qui sont de plus en plus tendus et qu'on va mettre la pression sur les labos pharmaceutiques pour nous vendre des médicaments moins chers.
Je crois que c'est McKinsey qui a dit que les économies liées au fait que le développement d'un des médicaments sera beaucoup plus court
va permettre de baisser les prix
en dizaines de milliards. D'accord. Donc en réalité,
donc ça c'est une bonne nouvelle.
Donc en réalité, ça coûtera au final, ça coûtera moins cher. Donc dans le monde d'après. Moi, je pense que santé et climat vont être fondamentaux.
Bon, vous voyez, c'est sympa d'être dans une émission où il n'y a plus la guerre en Iran. Ça fait quand même du bien, non? Sympa, on n'en parle pas. Trump a dit ça, les Iraniens ont fait ça. Est-ce qu'on passe au top ou au flop avec vous, Valentine Hénouze?
Allez, c'est parti pour un super flop. Alors, le super flop, c'est la BCE. Hein, si elle monte ses taux... au mois de juin, on a quand même Isabelle Schnabel qui nous a sorti qu'aujourd'hui, je pense qu'une hausse de taux en juin sera nécessaire. Compte tenu de l'ampleur de la persistance du choc actuel, faire le don n'est plus d'actualité. Mais bon, si on regarde quand même aujourd'hui Le marché de l'emploi en zone euro, on a un taux de chômage qui monte en France, on a des destructions d'emplois dans l'industrie en Allemagne. Donc, on est vraiment dans un contexte sur le marché de l'emploi qui est totalement différent de celui de 2022 où on avait des hausses de salaire entre 4 et 5 %. Maintenant, on est revenu sur du 2 %. On n'est plus sur la même dynamique de création d'emplois.
Et puis, il y a l'IA, on en parlait aussi, oui, qui est en train de faire un massacre.
Oui, et même si on regarde aujourd'hui le niveau de taux, on est sur des niveaux de taux qui sont déjà totalement différents de 2022. Il faut se rappeler que début 2022, le taux de dépôt de la BCE il était en territoire négatif à moins 0,5. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les taux longs aujourd'hui, pour moi, sont déjà sur des niveaux restrictifs pour des pays comme la France ou l'Italie, alors que début 2022, les taux longs réels...
C'est-à-dire, pourquoi ils ne vous écoutent pas ? Pourquoi ils vous entendent pas ? Pourquoi ils n'entendent pas Valentine Elouz à la BCE ?
Donc, si on regarde marché de l'emploi, si on regarde les niveaux de taux, c'est les risques d'avoir aujourd'hui ces fameux effets de second tour, c'est-à-dire ce que craint la BCE, c'est que cette hausse des prix sur l'énergie se diffuse sur l'économie, contribue à des hausses de salaires et à nouveau des prix sur le reste, sur l'économie. Ce cercle vicieux qui est très craint, pour moi, je vois la probabilité de voir ce cercle vicieux se mettre en place, qui est proche. Qui est
Madame Lagarde, si vous nous écoutez. Sébastien, top ou flop ?
Flop pour les députés.
Super flop. Hein.
Français, super flop, qui était infiniment moins venu pour écouter Arthur Mensch parler des problèmes. Qu'est-ce qui faisait que c'était compliqué en France et en Europe de développer des sociétés comme Mistral ? Ils étaient très peu. Par contre, c'était beaucoup pour écouter et embêter le futur candidat à la Banque de France, parce que c'était un sujet politique, parce que c'était un moyen d'embêter Macron et de dire il y a des conflits d'intérêts partout. Donc un sujet politique, certes important, mais en réalité... moins.
Oui, surtout que l'importance de la Banque de France aujourd'hui.
Je voulais pas le dire, mais c'est un peu l'idée.
C'est un peu le Conseil économique et social.
Par rapport à tous les blocages auxquels on fait face et qui seront toujours présents dans le monde d'après, alors que les autres bougent beaucoup plus vite.
Stéphanie, top ou flop ?
Alors moi, c'est un top. On va rester sur le sujet électrification. Pour le 800 volts, alors on va parler technique, parce qu'on a passé notre émission à parler de l'électrification, des data centers,
vous,
des puces.
Il n'y a que vous.
Et aujourd'hui, pour ça, il faut forcément d'électricité, beaucoup d'électricité. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces data centers, aujourd'hui, le courant arrive en courant alternatif, alors qu'un GPU, ça a besoin de courant continu. Et donc, à chaque fois qu'on fait cette conversion, en fait, on perd de l'électricité sous la forme d'un dégagement de chaleur. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie solution qui est proposée notamment par Schneider Electric et tout l'écosystème qui est en train de se mettre en place, c'est ce 800 volts qui va être beaucoup plus efficient. Ça va permettre près de 22% d'électricité. Donc ça, c'est un vrai game changer pour toute cette thématique-là qui va rendre peut-être moins coûteux, plus efficace tout cet écosystème. Donc Schneider Electric a une solution et il y a notamment dans mon portefeuille, j'ai du Vertiv qui est prêt aussi à déployer auprès des hyperscalers cette nouvelle technologie. Ça va prendre un peu de temps, mais on a des solutions concrètes.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que si j'ai une panne d'électricité
dans ma maison,
je sais qui appeler avant, j'étais complètement perdu, mais là, on sait que vous pouvez tous appeler, vous nous laisserez votre portable. On va faire défiler le portable de Stéphanie sur l'écran. N'hésitez
et
pas.
Jaloux, si
vous
avez, c'est une femme par technique.
Si vous avez une panne d'électricité, vous pouvez l'appeler. Et si vous avez besoin de 800
volts,
n'hésitez pas. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a un sac avec.
Exactement.
Top ou flop ?
J'étais parti sur un flop. Moi, c'était les 21 milliards de Trump qui doit commencer à rembourser les droits de douane là sur les 166 milliards qu'il doit rembourser. Vous savez,
il va devoir les rembourser.
Ça y est, là, il vient de débourser 21 milliards et donc vous savez que c'est 90% des droits de douane sont payés par le consommateur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les 166 milliards, il les rembourse aux importateurs. Donc en fait, c'est un transfert du consommateur vers la boîte américaine. Non, je vais faire un top alors pour équilibrer avec mes camarades qu'on est deux tops, deux flops. Et le top, c'est quand même les ventes de voitures électriques qui est justement. On a parlé beaucoup d'électrification à juste titre, quand même ce mois-ci, quatrième mois consécutif d'accélération phénoménale de la vente des voitures full électriques en Europe, plus 38% en avril en Europe, les hybrides c'est plus 12%.
C'est un top pour la Chine, non ?
Ah, justement non, justement quand on regarde c'est surtout du Volkswagen.
Ah, bah voilà.
Vous avez la part des voitures thermiques,
essence
c'est quand même moins 14%, diesel moins 17%.
Donc ça y est, on a basculé ?
On est en train de basculer, on appelle ça le point pivot. Et aujourd'hui, vous savez, la part de marché de BYD, on a l'impression qu'on voit des BYD partout, ça reste que de 0,7% en France, 2% en Europe. Pour l'instant, les grands gagnants, c'est notamment un Stellantis qui avait été un
peu... c'est une bonne nouvelle, ça.
Mais un milliard enfin à Mulhouse. Donc attention, cette électrification, elle se traduit dans les faits déjà depuis 4 ans.
Europe is back.
Pouvoir taxer le plein d'électricité. Ça va être...
Allez,
c'est une sur deux. Hein. Une sur deux qui est électrique ou... ou hybrides
dans rechargeables. Le parc. Dans
non,
le parc.
En vente.
En vente, c'est pas 100%.
On a une sur deux.
Ah, moi, je pensais qu'ils vendaient même plus de thermique.
Ah, bon, en Allemagne, on est à 47%. Hein, donc, c'est déjà le cas en Allemagne avec les aides qu'ils ont remises.
Alors, ils l'attendent parce qu'ils se demandent s'ils vont être dedans, le top 3, et il va y avoir des déçus et des contents. Numéro 1, Pierre Chang, 17,2%. Numéro 2, Alain Pitou, 16,4%. Sébastien Lalvé, 14,7%. Mais je peux vous révéler, Stéphanie, que vous êtes juste au pied du podium.
Très frustrant, la médaille en chocolat.
On attend votre recommandation. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher sur l'écran les portefeuilles de Stéphanie et puis on va lui mettre une petite musique qui fait peur parce qu'elle m'a l'air très sûre d'elle avec ses histoires d'électrification de 800 volts. Allez, L'Oréal.
On garde.
Fusion.
On garde.
Lumibird.
On garde.
Dassault Aviation.
Même chose.
Pierre et Vacances.
On renforce.
On renforce, non.
Dassault Aviation.
Pierre et Vacances.
Pierre et Vacances, on garde.
Alibaba.
On garde.
Bilendi.
On garde.
La française. Vous avez presque autant de valeurs que Sébastien, qui est le champion du nombre de valeurs dans le portefeuille. Je vais vous sanctionner. La française de l'énergie.
On garde.
Vicat.
On garde.
Roberté.
Magnifique, on garde.
Vous êtes contente de vous?
Oui, oui, oui.
De votre portefeuille. Vertive.
On garde.
Sightrain.
On garde.
Atem.
On garde.
Jacquet Metal.
On garde.
Baidu.
On garde.
Accor.
Garde.
Valourec.
Bah, je vais quand même vendre Valourec parce qu'on a bien gagné.
Il est temps. J'ai plus de place.
On a joué
le monde d'après. Même si, voilà, pour un investisseur long terme, il y a un beau dividende, c'est très bien géré. On garde.
Qu'est-ce qu'il dit, Sébastien?
Géothermie aussi.
Géothermie, exactement.
Géothermie. C'est le monde d'après aussi.
Tout à fait.
Et donc, qu'est-ce qu'on achète?
On va acheter Médincel. Hein, c'est okay. Une biotech de Montpellier qui a une technologie d'injection à action prolongée. Pour des médicaments, donc c'est pas eux qui développent ces molécules. Les molécules existent et simplement on les administre d'une manière plus efficace. Et donc aujourd'hui, Médincel a un partenaire majeur qui est Teva, qui fait déjà du chiffre d'affaires avec l'UZEDY dans la schizophrénie. On attend après l'été une autorisation de mise sur le marché de la FDA aux États-Unis pour un deuxième produit, l'olanzapine, qui pourrait être un vrai game changer. Et puis ils ont un très beau partenariat aussi avec AbbVie, pour lequel ils ont touché 35 millions d'upfront. Il y a près d'1,9 milliard qui peuvent toucher dans 6 développements. Donc,
c'est gros, ça, comme moi
C'est presque 1 milliard de capi.
Ah oui, donc ça y est, c'est déjà...
Oui, ouais, ça y est, c'est parti, on a confiance. Et il y a beaucoup de news flow à attendre sur cette valeur. C'est biotech, c'est risqué, mais voilà.
Sébastien Lalvé.
C'est moi.
Est-ce qu'on peut avoir une musique qui fait peur? Parce qu'il frime, parce qu'il a été premier l'année dernière. Là, il revient sur le podium. Alors, on va afficher son portefeuille. Comme ça, on va pouvoir lui dire. Alors, il a du Selectis.
Je garde.
Il a du Reward Media.
Je garde.
Il a du SMCP.
Bien sûr.
Il a du Valourec.
Je garde.
Du Soprasteria.
Bah, ça a marché.
On a de la Française de l'énergie aussi.
Bah, je confirme.
ID Logistics.
Bien sûr.
Téléperformance, ça c'est marrant, ça c'est...
Bah, ça monte, hein, ça a pris 50%.
Ouais, ça a été très chahuté. Zalando.
C'était acheté un peu tôt, mais Zalando, c'est pareil.
Infineon.
Il y a beaucoup de choses contrariantes. Infineon, bah, bien sûr qu'on garde.
Ipsos.
Pareil, contrariant. Alors,
nos amis allemands de l'énergie, vous gardez?
Bah, ça a pris 150%, mais c'est pas fini.
Sartorius.
Je vends.
Vestas.
Vestas, parce que c'était la dernière fois, donc je garde.
Qu'est-ce qu'on achète, Sébastien?
On achète une valeur finlandaise qui s'appelle Metso, qui fait 13 milliards de capitalisation boursière. Et c'est un des leaders mondiaux de l'équipement minier, avec plus de 40% du chiffre d'affaires lié au cuivre. Et le cuivre est le métal de la transition énergétique, de tout ce que vous voulez, de l'électrification. Donc il n'y a pas assez de cuivre dans le monde, il n'y a pas assez surtout de mines. Et ça prend beaucoup de temps de les faire, donc et on est en train de les faire, donc le cours du la mine, enfin le cours du cuivre va monter et Metso va continuer son bon parcours.
J'ai voulu garder quelques secondes pour vous faire réagir Sébastien et peut-être Stéphanie si on a le temps. Quand vous voyez des introductions en bourse, bon, c'est vous qui en avez parlé, SpaceX, OpenAI, Anthropic. Et que vous voyez 1 000 milliards, et que vous voyez que sur la place de Paris, il y a eu depuis le début de l'année deux introductions en bourse, des micro-caps. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que moi, franchement, ça me désole. C'est votre métier quand même. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous qui avez vécu, je ne sais pas combien d'introductions en bourse, vous ne dites pas, mais on est devenu un pays du tiers-monde en termes d'introduction.
Mais moi, je pense à 2G Énergie, que j'ai connu via Française de l'énergie. Une boîte qu'on aime beaucoup parce que 2G Énergie fait les turbines.
Ouais, mais vous répondez pas à ma question, mais je m'en fous.
Non, mais 2G Énergie, ça valait, c'était une introduction petite. ça valait 300 millions d'euros, ça vaut un milliard aujourd'hui.
C'est pas le sujet.
Non, mais je le sais, la réalité, c'est que les modèles...
Comment se fait-il qu'un entrepreneur aux États-Unis, aussi fou ou génial comme vous voulez qu'un Elon Musk, son obsession c'est d'être en bourse, et que les entrepreneurs français n'ont pas envie d'aller en bourse?
Non, c'est pas qu'ils ont...
S'il y en a que deux, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y aller, hein, excusez-moi.
Non, c'est qu'il s'est passé un truc, c'est que le private equity a très bien fait son travail auprès des pouvoirs publics et des patrons d'entreprises pour expliquer que le vrai financement de la vraie vie, c'était le private equity et pas les marchés boursiers.
Mais vous aussi, vous avez fait votre job, vous, les Stéphanie Moger, vous, les gérants, c'était votre job aussi, de vendre votre métier.
Mais il y a aujourd'hui une prise de conscience depuis 2-3 ans sur le sujet. Et
vous pensez qu'il y a un jour où les introductions en bourse vont repartir en France? Où un chef d'entreprise se dira, les 10 plus grandes fortunes mondiales sont tous patrons d'une boîte cotée? Et on quand même réalisé que c'est peut-être par là que ça passe, non?
Mais des IPO à 1000 milliards, il faut un écosystème, il faut...
D'accord,
il faut
si on a 1 milliard, on sera content. Bon, en tout cas, ça fera le sujet...
de marché de capitaux.
Ça fera le sujet d'un...
Les valorisations remontent.
Franchement, on peut faire une émission spéciale sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer en exclusivité qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Le but, c'est qu'on explose le dernier record du mois dernier.
C'est votre argent sur BFM Business.